RCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Nous parlons des couples depuis le début de la semaine et nous parlons particulièrement des couples qui vivent des difficultés, qui traversent une période de crise. Et nous avons depuis le début de la semaine aussi une invitée, Maria. Bonjour Maria.
Bonjour Annabelle.
Tu vas bien ?
Oui, bonjour à chacune
bonjour
aussi.
Maria. Bonjour. Et vraiment, on te remercie pour tout ce que tu as pu partager ici sur ce plateau. Tes témoignages personnels, ton expérience que le Seigneur t'a appris. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de partager tout ça. Et c'est un sujet qui te tenait à cœur parce que toi-même, tu l'as vécu et parce qu'on sait que c'est une réalité aujourd'hui dans le monde chrétien, aussi bien que dans le monde séculier, que les couples vivent des temps difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est que en Jésus-Christ, il y a un espoir, il y a une solution. Dieu aime le mariage, Dieu aime les couples et Dieu a pourvu à une solution. Alors j'espère que vous avez été bénis par ces émissions et on ne pouvait pas ne pas parler de la famille, des enfants, parce que oui, le couple peut vivre ces temps de crise, mais il y a d'autres personnes qui sont là aussi dans la maison et qui souvent, malheureusement, vont écoper tout ça et vont être aussi spectateurs de tout ce qui va se passer. Alors vraiment, Maria, pour cette dernière émission, on veut encourager, oui, les couples peuvent traverser une crise, mais comment préserver les enfants et peut-être allumer une espèce d'alerte et dire, OK, c'est pas normal ce qui se passe, mais il faut qu'on fasse attention à nos enfants.
Effectivement, c'est vraiment hyper important que lorsqu'il y a une crise dans le couple, les enfants puissent en être préservés le plus possible. Notamment des moments de discussion ou de dialogue, dirais-je, ou qui peuvent des fois monter le ton ou des choses comme ça. Les enfants, en fait, non seulement ils sont attristés, presque ils s'en sentent responsables. C'est ainsi la psychologie de l'enfant. Quand ils grandissent, ils peuvent en prendre la distance. Mais quand ils sont petits, pour eux, chaque fois qu'il y a un risque de... eux, ils vont penser tout de suite au pire. Ils vont penser ou à une séparation ou à un divorce. Et pire encore, ils vont vraiment le prendre comme c'est leur faute. Ils n'ont pas été assez calmes ce jour-là. Ou ils vont vraiment beaucoup l'intérioriser, ce qui va créer en eux une grande insécurité, finalement, émotionnelle. Donc... je dirais la première chose à faire, c'est d'éviter de tout simplement commencer une discussion devant eux. Ça, c'est la première chose à faire, s'interdire à tout instant de tout simplement parler de ce qui dérange devant eux.
Et dans ces cas-là, quelquefois, on peut avoir l'impression on fait semblant, on joue un jeu devant les enfants. Puis finalement, oui, c'est vrai, on peut jouer un jeu dans le sens où papa et maman, ça va bien. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de mal parce que ça va être intentionnel pour le bien de l'enfant. Et comme tu dis, c'est des choses que les enfants n'arrivent pas forcément à supporter ni comprendre. Donc de toute façon, leur exposer ce spectacle-là, ça va provoquer de la confusion et une grande insécurité. Parce que faut vraiment pas avoir peur, en fait, de se dire, on est faux devant les enfants. Non, c'est qu'on leur offre le modèle familial tel qu'il devrait être parce qu'on veut pas qu'ils soient les victimes d'un dysfonctionnement qui ne les concerne pas finalement directement.
Et s'ils sont adolescents, le risque est que les adolescents, tout simplement, rejettent les parents, parce qu'ils vont penser, ils m'ont à la limite enseigné ou fait de leçons toute ma vie de ceci, de cela. Maintenant, qu'ils sont en crise, regardez. Et puis, ça va les révolter encore davantage. Ça va peut-être les faire encore se renfermer plus. Donc, il faut éviter vraiment à tout prix, autant que faire se peut, d'aborder les sujets qui fâchent devant les enfants et sans aller au point de vraiment jouer un jeu, je dirais comme de comédie. En tout cas, garder tout le temps le respect, toujours la courtoisie, toujours le fait que, c'est passager, c'est vrai, c'est une crise, mais c'est une crise de deux adultes qui va être réglée parce qu'il faut toujours garder l'espoir et préserver les enfants de ces tensions, soient-elles relationnelles, financières. Vraiment, c'est un conseil qu'il faut vraiment donner aux parents.
Est-ce qu'on peut se permettre de craquer devant ses enfants ?
Si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Les enfants vont amplifier ce qu'ils voient. Et il y a un jour une chrétienne comme ça qui m'a dit, il ne faut pas pleurer devant les enfants parce que pour eux, leur terre s'effondre. Même si toi, c'est juste un petit passage d'une demi-heure où bon, t'en as trop, puis ça déborde. Eux, ça va peut-être les marquer pour longtemps. C'est la terre qui s'effondre littéralement. Si on peut éviter, c'est quand même mieux. Mais c'est sûr que des fois, il y a des très grosses crises. Et puis, ben, on n'a pas tous la même maîtrise de soi. Mais il faut rassurer les enfants. Si jamais il nous arrive de pleurer ou de craquer devant un enfant et qu'il nous voit pleurer, ben, faut expliquer. Ben, tu sais, maman, elle est un peu triste, mais ça va passer. Puis c'est pas grave, c'est pas ta faute. Il faut expliquer. Mais le mieux, c'est quand même de ne pas craquer.
Mais moi, je me souviens, mes parents, à un moment donné, bon, ça n'allait pas bien, mais je veux dire, pendant quelques années, on a cru que ça allait bien, on partait en vacances, etc. Il y avait des arrangements, mais bon, on est enfant, on croit que c'est normal. On va partir plus longtemps en vacances, 2 semaines avec papa, maman vient un peu, et puis tu vois, on se dit, ah, mais c'est génial, ça veut dire qu'on part plus longtemps en vacances, ils se sont arrangés pour nous, c'est trop cool. Et c'est un peu la naïveté de l'enfant, puis tant mieux. Je me souviens, on sentait qu'il y avait des tensions parce que même s'il se passait pas forcément quelque chose, on ressent, on est là dans la famille, on sent les tensions, on voit aussi des regards, on sent la froideur qui s'est installée, on rigole plus dans la maison et il y a personne qui l'a dit, mais c'est comme on le sait et les enfants aussi peuvent le percevoir. Et c'est pas pour mettre la condamnation sur les parents, mais c'est vrai, comme tu dis, le monde s'écroule à ce moment-là parce que on connaît pas grand chose. Et moi, la première fois que j'ai vu ma mère pleurer pour de vrai, dans le sens pas une petite larme, vraiment des pleurs, je me suis dit, bah, je sais pas, je voyais même pas d'issue à la fin de cette journée. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Et on se souvient, il y a eu l'histoire de Tchernobyl, ou je sais pas quoi, à un moment donné. Alors là, ça m'était complètement passé au-dessus de la tête. Tu sais, il y avait le mur de Berlin, toutes ces choses-là, la guerre en Irak. Et bah alors, ma mère qui pleure, c'était comme, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible.
Est-ce que t'as senti la culpabilité, toi?
Ah bah oui, je me souviens, la première chose qu'elle dit, c'est que c'est à cause de moi. Oh. Parce que c'est sûr, tu fais des bêtises quand t'es petit. Ouais. Bah, je me dis, bah quand même, mince, si j'avais su que ça lui faisait ça, je rangeais pas ma chambre, je l'aurais peut-être
Mais les enfants, ils voient leurs parents comme des héros. Ils voient en leurs parents vraiment de la force, beaucoup de choses, en fait. Et craquer devant son enfant, mais ça revient aussi quelque part à effondrer le monde de l'enfant. Que l'enfant s'était construit.
Ouais,
et ça, c'est vraiment, comme tu dis, à éviter. Et il faut parler aussi, je pense, de dialogue. Beaucoup, ça va aider parce que il faut apprendre à se mettre au niveau de l'enfant qui est là en face, parce qu'il y a des choses qu'il comprend pas, tu vois. Toi, il y a des choses que tu comprenais pas à ce moment-là. C'est sûr que c'est pas simple à expliquer, mais il faut vraiment rentrer et se dire que lui, il pourrait penser même que tout s'effondre, tu vois, comme tu dis, Tchernobyl et tout. Et
la broutille,
oui, vraiment.
Il faut vraiment qu'on arrive à s'ajuster aussi en tant que parents.
Et puis de pas forcément tout leur dire, mais comme tu dis, de communiquer.
Ouais.
L'enfant, il est juste en train de dire, bah, rassure-moi, dis-moi quelque chose. Ouais, n'importe quoi, mais dis-moi quelque chose, que je me sens mieux parce que j'ai besoin j'ai juste besoin d'avoir une réponse et pas de rester avec cette image-là de désespoir. Mais encore une fois, c'est vraiment pas pour mettre de la condamnation. Si vous avez pleuré, si vous avez craqué, si vous êtes emporté devant vos enfants, ça peut arriver, mais allez les voir, allez rétablir la communication, le dialogue, ne laissez pas cette situation en suspens et surtout ne laissez pas la honte vous gagner. Mince, voilà, j'ai gâché l'avenir de mes enfants. Non, regardez, ça va bien maintenant. non, mais juste allez les voir, ayez ce courage et cette responsabilité.
Oui, et beaucoup de douceur finalement envers eux, beaucoup de quelque part prendre de la distance du problème, parce que souvent nous les femmes, on compare souvent notre psyché, notre intérieur, nos émotions à un plat de nouilles ou à un plat de spaghettis.
Ah,
donc
j'ai jamais entendu ça.
Non,
c'est vrai,
il y a même un livre qui montre un plat de nouilles qui parle de l'homme qui fonctionne un peu comme une commode, section couple, section travail, section
oui, la commode
ou le panier de linge sale, ou c'est l'armoire,
j'ai entendu l'armoire.
Ouais, mais le plat de nouilles aussi.
Donc c'est sympa, tu ressembles à un plat de nouilles.
Ben, je préférais ressembler à une armoire.
Donc, mais tout nous, en tout cas, le principe, c'est que pour nous, les femmes, tout est un peu interconnecté. Mm-hmm. Quand tout va bien avec notre conjoint, tout va bien dans la vie, en fait, tout va bien au travail, tout va bien. Voilà. Mais dès qu'il y a un domaine, un petit truc qui coince, alors ça ne va pas partout. C'est-à-dire, si j'ai une discussion avec un collègue au travail, après, je rentre maussade à la maison, mm-hmm. et puis mes pensées continuent, et puis du coup, je suis maussade avec tout le monde. Et on arrive très difficilement à sectionner nos vies. Contrairement aux hommes, pour qui c'est beaucoup plus simple. Bon, bah, ils ont eu, je sais pas, un mot avec un collègue au travail. Bon, c'est oublié. Le lendemain, ils règlent ça. Ils terminent de, voilà. Et eux, ils arrivent beaucoup plus facilement à, quelque part, cantonner les crises de manière plus intellectuelle. Mais nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus mélangées à l'intérieur, moins sectionnées, il y a beaucoup plus de perméabilité. Mm-hmm. Et du coup, nous devons beaucoup veiller à ce que la crise est avec une personne et pas avec nos enfants. Et nous devons les protéger en ce sens. Quand ce verset, hier, on parlait de la prière, on parlait du fait que Philippiens 4 nous dit vos prières, vos supplications, présentez-les devant Dieu. Avant ça, la Bible dit, juste avant, le verset 4 dit, réjouissez-vous toujours, même dans les temps des crises. Mm-hmm. C'est-à-dire que oui, la crise, il faut la gérer, il faut dire ce qu'on a besoin de dire à notre conjoint, mais chaque temps a son chaque temps pour sa chose. C'est le temps de régler la crise, mais pas le temps de. Ce n'est pas 24 heures sur 24 qu'on règle une crise, vous voyez. Et en fait, on perd beaucoup d'énergie finalement à cogiter, à cogiter, à cogiter. Quand il y a un temps pour la crise ou pour régler cette situation. Mais les enfants ne sont jamais vraiment la cause de la crise. Mmh. Eux sont souvent le rayon de soleil, eux c'est souvent la joie, les rires et les moments de qualité aussi. Alors il y a besoin de nous réjouir avec eux. Il y a besoin d'éclater des rires parce qu'ils nous ont montré un dessin qui était rigolo ou parce qu'il y a. Donc il faut aussi nous laisser quelque part dans notre tête prendre cette distance avec la crise et dire il y a un temps pour tout dans ma journée, il y a un temps pour que je sois aimable avec mes enfants. D'ailleurs, c'est écrit réjouissez-vous toujours, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Les premiers hommes que nous sommes en contact dans notre vie, c'est nos enfants. Bon, je dis homme, être humain, je veux dire par là. Ce sont les premiers êtres humains avec qui nous sommes en contact. Ils nous voient quand on se lève le matin avec les cheveux comme ça, qu'on ne sait pas encore brosser les dents. Nos enfants nous voient dans tous nos états, n'est-ce pas? Dans toutes nos situations, quand on est super excité, quand on est vraiment aussi par moments triste ou accablé ou silencieuse. Ils nous connaissent d'un clin d'œil, en fait. Et donc, c'est vraiment d'autant plus qu'ils nous sont proches et qu'eux aussi, ils ont besoin de nous et ils en dépendent de nous pour un tas de choses. C'est à nous de faire deux fois plus attention à ce que notre douceur envers eux soit connue.
Exactement, de rester une mère dans ces moments-là et de ne pas déplacer la crise. Et ça, cette mère, c'est un super principe pour tout dans la vie. On n'est pas obligé de déplacer nos crises avec nous dans tous les domaines de notre vie, finalement provoquées partout. Ouais. Et aussi, bref, ce que je veux dire, c'est que quelquefois, ça peut être tentant en tant que parent et peut-être en tant que plus que maman d'avoir un enfant, souvent l'aîné, qui va être plus mûr et on a l'impression qu'on peut lui parler. On a l'impression que c'est notre ami, c'est notre confident. Et là, on oublie que cet enfant-là, notre mari, de qui on se plaint, ou
c'est son père.
Ou voilà, c'est son papa aussi, et que du coup l'enfant se trouve pris entre deux. C'est pas forcément bon. Moi j'ai raison, etc. C'est juste de dire, tu vois, c'est ton père qui me fait souffrir. C'est comme mince quoi. L'enfant se retrouve en train de choisir, et l'enfant n'a pas une place. Il ne doit pas avoir cette place de confident et de conseiller en fait.
Tout à fait, c'est même nuisible, ça le déstabilise énormément. Ça peut même, à l'avenir, ça dépend de l'âge, mais ça peut vraiment être la source de beaucoup de, je dirais, d'exagération que l'enfant va faire. C'est-à-dire, il va extrapoler certaines choses, des émotions dans sa vie, il va aller après certains vices ou certaines attitudes qui vont même être destructrices pour lui, tout simplement parce qu'à un moment donné, il a été tellement déstabilisé dans son être de ne pas savoir prendre parti, qu'il va finalement faire comme une sorte de fuite, si ce n'est pas réglé en tout cas.
C'est ça, mais je ne pense pas non plus qu'un enfant est capable de supporter la pression de porter un fardeau qui ne lui appartient pas, le fardeau qui appartient à son père ou à sa mère. Je me dis, c'est beaucoup trop lourd de devoir être le confident, la confidente de ta mère. Je veux dire, c'est comme si les rôles étaient
inversés.
Ouais. Puis c'est juste malsain. C'est juste carrément malsain. Je veux dire, si vous êtes une mère que vous avez besoin de vous confier dans quelqu'un, s'il vous plaît, trouvez un adulte responsable. Ouais,
tout à fait.
Mais pas votre enfant. Parce que
il y avait une famille comme ça où ils étaient passés par une grave crise financière et le papa en avait fait une dépression, vraiment. Ouais. Et ça faisait beaucoup de tensions entre la mère et le père. Et les enfants étaient ados. Je pense que le grand garçon devait avoir peut-être 13, 14, 15 ans. Enfin, vraiment ados. Et c'était lui qui était devenu, en fait, le chef de famille, confident de la mère. C'est lui qui portait les fardeaux et tout. Mais en grandissant, ça lui a donné du mépris pour son père. Et ça a complètement changé, tordu la figure paternelle. Et maintenant, cet homme-là, il est adulte et il est papa. Il y a quelque chose qui ne s'est pas construit. Il y a des séquelles de cette période-là. Donc, il faut faire attention. Oui, peut-être que votre grand garçon a l'air mûr ou votre grande fille a l'air mûre, mais si vous les prenez comme confident et pour porter la famille, vous allez compromettre certaines choses dans son futur parce qu'ils sont à l'âge où ils bâtissent leur image d'adulte. Et on est en train, par égoïsme et puis par manque de sagesse, on est en train de compromettre leur propre chance d'être un adulte équilibré. Donc, ça va plus loin que notre propre dignité envers nos enfants. Je veux dire, si vous déballez votre sac de linge sale devant vos enfants, c'est eux que vous salissez. Donc, évitez pour vous, mais surtout pour eux.
Tout à fait.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Anne dit à 100%. Oui.
Et d'être vigilant à ça, surtout quand l'enfant est disposé finalement à être surtout, cette personne parce qu'il se dit, bon, bah, il faut que je sois là pour papa ou pour maman. Faut que je tienne. Parce que l'enfant pense que c'est normal finalement et c'est à partir de là qu'il va se construire et souvent mal se construire et puis sauter des étapes et ça se verra. Pas demain, ni peut-être dans un an, mais dans la vie adulte, quand lui-même va pouvoir avoir une vie de couple et une vie de famille.
Et notamment, donc, pour compenser justement ce côté, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas se retrouver oisif. C'est-à-dire, on est en train de vous dire, ne faites pas ça. Alors, on va vous dire maintenant, que faire ? Donc, si vous avez, par exemple, du mal à dire, parce que votre cœur est un peu, je dirais, chagriné, préoccupé, etc., trouvez-vous une activité à faire avec vos enfants. Faites-en exprès de remplir ce moment de la journée où les enfants sont disponibles autour de vous et soyez très concrets. Allez, on prend les vélos, on va au parc. Donc, ça va, eux, leur remplir leur réservoir émotionnel, quelque part. C'est comme on peut mettre de l'essence dans la voiture tous les matins. Nous sommes tous faits comme ça. Nous avons tous besoin de cette dose d'amour et d'affection et de joie pour garder nos émotions plutôt du côté positif, pas du côté négatif de la jauge. Et donc, ce qui permettra aux enfants de dire oh, « Aujourd'hui, on a passé un super moment avec maman, on est allé au parc ». Donc, vous pouvez compenser les activités, je dirais, négatives, qui sont celles de vous confier à votre enfant, de pleurer devant eux, de craquer finalement, ou de finalement parler négativement de votre conjoint, par des activités positives qui peuvent être de toutes sortes. Ça peut être, ça vous plaît de chanter, vous chantez. Ça vous plaît de faire du sport, faites du sport. Ça vous plaît les manualités, les crafts, tu vois, les activités manuelles.
L'artisanal,
des choses comme ça à faire. Ben, créez des figurines. Si ça vous plaît de faire des jeux des sociétés, ben, sortez un Monopoly, que sais-je.
Allez, on en a pour des heures comme ça.
Voilà, c'est ça. Et normalement, un bon passe-temps va vous permettre de justement oublier ce que vous êtes en train de cogiter pendant des heures et d'investir une heure, deux heures dans la vie de vos enfants positivement.
Là, je fais une petite parenthèse. Ça peut même être des amis qui vous invitent chez eux. Je veux dire, si vous connaissez une famille où il y a de la tension, où il y a vraiment une situation difficile, eh ben, invitez-les. Et très récemment, il y a un jeune comme ça qui a rendu témoignage de quelque chose qui s'est passé. Ça fait exactement 10 ans cette année. Son père et sa mère étaient en grosse crise. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais on avait eu l'idée de les inviter à faire des jeux de société chez nous. Et il a rendu témoignage juste là, je l'ai su très récemment, qu'en fait, le fait d'être venu jouer chez nous, dans une ambiance vraiment dénuée de toute tension, on riait, on mangeait des gâteaux et on jouait aux jeux de société, ça lui avait permis de passer cette période très douloureuse de la séparation de ses parents.
Wow.
Et lui et son frère d'ailleurs, mais c'est lui qui a rendu témoignage. Et à l'époque, je me suis pas rendu compte du bien que ça leur avait fait. Puis je suis contente vraiment que Dieu nous ait utilisés, quasiment à notre insu, parce que je l'avais pas calculé cette histoire-là. Mais à notre insu, Dieu nous a utilisés pour bénir cette famille-là, puis permettre aux deux adolescents de passer le cap. Alors maintenant, ben maintenant qu'on le sait, ben si vous avez
tu m'as invité à jouer à des jeux de société.
Non mais j'en avais pas que les couples en crise.
Mais je veux quand même bien y aller, manger du gâteau. Il y a pas de souci.
Elle joue au petit train. En tout cas, vous pouvez inviter. Je sais que nous on est une famille jeux de société, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une sortie, un pique-nique, un barbecue. Je ne sais pas quoi, mais ça les sort de leur atmosphère de tension permanente. Ça change les idées des parents, mais ça, surtout pour les gamins, ça leur fait une bouffée d'oxygène.
Énorme,
ah, tout
oui.
à fait. Ouais.
C'est vraiment bon.
Et le fait de faire des activités aussi, ça montre que les enfants sont aussi importants parce qu'ils ils peuvent le savoir, le percevoir, qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ils ne sont pas comme laissés pour compte. Vous venez vraiment après tout ça. C'est nous, on a nos problèmes, on n'a pas le temps de s'occuper de vous, on n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire ça. C'est comme il y a encore une place dans la famille, pour la famille, et il y a une place pour vous, il y a un temps pour vous. Et puis, il faut se dire aussi, les enfants, oui, c'est des éponges, il ne faut pas non plus trop s'en faire. Dans le sens, il y a plein de choses que les enfants, ils ne calculent pas vraiment. Ils ne voient pas forcément tout ce qui nous passe par la tête. Nous, on est là, on réfléchit, ça cogite et tout ça. Mais eux, ils ne voient pas forcément tout ça. Si on rigole un peu avec eux, ça se peut qu'en se couchant, et vraiment par la grâce de Dieu aussi, que quand ils repensent à cette journée, ils se souviennent qu'on a joué un bon jeu de société avec maman et on a bien rigolé et ça remplit leur cœur et c'est le souvenir qu'ils auront. Et nous, on est là, oh tiens, on a fait un jeu de société, mais bon, ce matin, j'étais pas très en forme, etc. Mais les enfants sont pas non plus des rayons X. Oui, ils voient des choses, faut pas le négliger, mais c'est pas non plus, c'est pas le Saint-Esprit, les enfants.
Les enfants vont reproduire aussi parce que les enfants sont aussi appelés à grandir et à faire d'autres enfants. Et c'est ça qu'ils vont reproduire aussi à leur niveau. Et je pense que les parents doivent penser à ça aussi. Ils doivent penser que vraiment Dieu leur a donné des enfants et ils sont censés vraiment leur montrer une bonne direction, un bon chemin et les éduquer de la bonne manière en agissant comme ça, comme on partage ici. Mais eux, ils vont pouvoir avoir quelque chose pour eux qu'ils pourront reproduire demain. On dit souvent que « Ah, mais tiens, tu fais comme ta mère, je ne sais pas. » Et c'est ça. Parfois, en fait, qui arrive dans la vie
comme
des
comme ta
enfants.
Mère, Aurélie. Non, c'est un compliment.
Elle cuisine trop bien. Moi, je suis un peu...
Tu devrais cuisiner comme ta mère, alors.
Une chose que j'apprécie des enfants, c'est vraiment... si on leur demande qu'est-ce qu'ils ont préféré des moments famille, c'est pas les grandes choses. Ouais. Ils vont se rappeler des petites choses.
Tout à fait.
Des balades à vélo, des soirées familiales, quand on est allé manger une crème glacée. Et souvent, c'est ça, quand il y avait un couple qui avait demandé à leurs enfants, c'est quoi vos meilleurs souvenirs d'enfance? C'était trois filles qui étaient rendues presque des adultes. Et puis, c'est exactement ce qu'elle avait dit. Vraiment des petites choses de tous les jours, des petites choses que nous, on peut penser qui sont anodines. Des fois, on pense qu'on a besoin de faire des gros trucs avec plein de feux d'artifice. Et ce qui leur fait du bien, en fait, c'est beaucoup les choses qui leur donnent du temps de qualité. C'est comme ça qu'ils ressentent l'amour.
Et puis confirme qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de l'argent pour ça. C'est vraiment pas une question d'argent, parce que pour les enfants, c'est tout simplement les moments partagés et le sourire, les éclats de rire, des choses comme ça qui, tout d'un coup, ils disent « Ah, elle a ri parce que j'ai fait une bonne blague, parce que j'ai fait le pitre dans le parc et ça l'a bien fait rire. » Et donc, vous voyez, c'est ces échanges-là, justement, qui vont construire ces enfants et ce qui nous pousse, nous aussi, un petit peu à laisser... C'est un peu un sacrifice parce qu'on a envie de plutôt penser à soi et... etc. ou au problème, essayer de trouver une solution. Mais en même temps, on est appelé à être maman, quoi.
Et en temps normal, c'est quelque chose qui nous aurait fait rire, qui nous aurait fait sourire. Et ça aussi, c'est un point important. Il n'y a pas besoin d'argent. Et ce n'est pas parce qu'on a des problèmes de couple qu'on doit acheter nos enfants. On doit les aimer, mais pas les acheter. Et juste pour terminer, du coup, cette émission, mais aussi cette semaine, un dernier mot par rapport aux enfants. Sur le parti pris, quelquefois, on peut comme demander aux enfants, regarde, tu choisis entre papa ou maman, qui a raison? T'es pas d'accord avec moi? Est-ce que tu crois pas que ceci, que cela? Ça fait du mal.
énormément. Ça revient un petit peu aussi à se confier à eux, à les mettre un petit peu à la place du juge, de celui qui doit trancher, à devoir prendre une décision finalement d'un domaine qui ne les regarde absolument pas, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre les tenants et les aboutissants. Et même, comme on disait dans l'autre émission, même un conseiller ne fait pas ça. Même quelqu'un qui a justement la capacité de prendre du recul, etc., ne va pas vous dire tu as raison et tu as tort. Donc c'est vraiment, je dirais, enfantin et puéril de réagir de la sorte vis-à-vis de ses propres enfants qui en sont complètement incapables. Et donc il faut vraiment les épargner un maximum, ne jamais dénigrer le conjoint devant eux et ne jamais non plus parler mal du Seigneur. Parce que parfois... J'ai eu affaire à des situations de couple, etc., dans lesquelles Dieu s'en prend plein la tronche. En fait, à entendre certaines personnes, tout ce par quoi ils passent, c'est de la faute de Dieu. Et regardez, et c'est vrai qu'il y a des situations qui sont vraiment catastrophiques. Hein. Vraiment, quand on regarde certaines vies, la souffrance par lesquelles certaines personnes sont passées, on s'est dit, Seigneur, c'est vraiment un champ de bataille dans certaines vies. Mais même là, même dans ces situations-là, je dirais, faisons attention de la manière où nous parlons du Seigneur à nos enfants. Et comme le dit aussi le Deutéronome au chapitre 6, de pouvoir toujours inculquer nos enfants, leur parler du Seigneur, de l'amour du Seigneur, même quand il y a des difficultés intérieures dans le couple ou externes au couple, mais qui mettent une ambiance un peu de crise et de tension dans la maison, de toujours se confier dans le Seigneur, toujours les impliquer. Nous, personnellement, quand on a passé des situations financières compliquées et que parfois le frigo était vide et que nos enfants s'en sont rendus compte, on leur dit, mais ce n'est pas grave, on va prier. Ce soir, on va prier et le Seigneur le sait. Et donc, simplement, on dit, par exemple, avant le dîner, on dit, Seigneur, nous te remercions de ta provision. Et eux, ils prient avec nous. Et ils sentent que, en fait, le Seigneur est au courant de nos situations, qu'il est gouverne tout, qu'il est au courant de tout ce par quoi nous passons, et que même nos besoins, même nos crises, nous pouvons les lui remettre. Et nous devons préserver aussi ce côté de la foi de l'enfant, en fait. Ce côté de comment l'enfant vit sa relation vis-à-vis du Seigneur, en fait.
Et d'ailleurs, dans votre famille, vous avez vu en plus le Seigneur répondre. On prie en famille et on voit la provision en famille aussi. Donc,
concrètement, à de nombreuses reprises, je pense que si je devais vraiment parler de tous ces témoignages, je n'aurais pas le temps.
Bon, Maria, il va falloir revenir, c'est sûr. Écoutez, 30 secondes et tu nous laisses sur notre faim. On avait envie d'entendre ces témoignages. Mais à vous tous et vous toutes qui nous avez suivis, vraiment, je vous encourage à prendre toutes ces choses que vous avez reçues cette semaine, à les déposer devant le Seigneur, à lui demander comment est-ce que moi je dois agir, comment puis-je réagir. Et je crois que le Saint-Esprit va déposer en vous une stratégie particulière, va aussi vous parler de ce qui ne va pas chez vous, peut-être des choses à changer, des ajustements. Et s'il y a des choses au cours des émissions, ça vous a parlé, vous avez dit ça je sais que je l'ai fait, j'aurais pas dû le faire. Vous pouvez marcher, bénéficier de la miséricorde de Dieu, demandez-lui pardon. Et si vous avez besoin d'aller parler à votre conjoint, d'aller parler à vos enfants, faites-le. Poursuivez la paix à tout prix. C'est votre décision de pardonner, c'est votre décision de poursuivre la paix. Et c'est le Saint-Esprit qui fera le reste en vous, qui fera ce que vous ne pouvez pas faire. Ne perdez pas espoir, ne renoncez pas si facilement à votre couple, parce que le diable a des projets de destruction et de division, mais Dieu a des projets de paix et de bonheur pour vous et pour votre mari, et deux valent mieux qu'un. Donc vraiment, recherchez le Seigneur de tout votre cœur, mesdames. Poursuivez-le dans la prière, dans le jeûne, et on croit avec vous que vous allez vivre un miracle dans votre couple. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.